Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité. Bonjour et bienvenue à l'économie en direct sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes en Île-de-France. À écouter en FM sur 98.00, web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile sur Android. Jacqueline Voraz avec Nicolas à la technique. Bonjour Nicolas. C'est l'économie en direct. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Aujourd'hui, mardi 10 mars 2026, sur IDFM Radio, immersion au cœur d'une juridiction essentielle, mais trop méconnue du grand public, le tribunal de commerce de Pontoise. Une institution dans laquelle des femmes et des hommes, chefs d'entreprise ou cadres dirigeants, exercent bénévolement une mission de service public. Rendre la justice commerciale, résoudre les litiges entre entreprises et accompagner celles et ceux qui traversent des difficultés. Or, le tribunal fait actuellement face à un enjeu majeur, le besoin de recruter de nouveaux juges consulaires pour les années à venir. Quelles sont leurs missions concrètes? Quelles qualités faut-il pour s'engager? Combien de temps cela représente-t-il? Et pourquoi franchir le pas? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios Corinne Belleville, dirigeante associée, juge consulaire, présidente de la 6e chambre des procédures collectives. Bonjour Corinne.
Bonjour Jacqueline.
À vos côtés, Géraud Fontanier, juge consulaire, président de la 3e chambre de contentieux du tribunal de commerce de Pontoise. Donc, bonjour Géraud.
Bonjour Jacqueline.
Corinne, vous êtes aussi au tribunal de Pontoise, mais bon, je l'avais dit juste avant. Et Catherine Duchesne, chef d'entreprise dans une agence de communication, juge consulaire et présidente de la 10e chambre du contentieux général du tribunal de Pontoise. Bonjour Catherine.
Bonjour Jacqueline.
Chacun donc juge consulaire de ce tribunal et expert dans votre domaine respectif. Merci et bienvenue à tous les trois d'être avec nous.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Alors donc merci d'être dans nos studios ce matin. Je vous propose de vous présenter chacun brièvement, nous parler de votre parcours professionnel et puis votre fonction actuelle au tribunal. Et puis un peu plus tard, on verra ce qui vous a donné envie de devenir juge. Mais déjà vous présenter Corinne Belleville.
Oui, déjà merci de nous avoir invités. Donc moi je suis chef d'entreprise, je dirige deux sociétés, une société qui s'appelle PIC 92 qui fait de la conception et de l'installation de bulles de vente pour les promoteurs immobiliers et la société Image Eurovisuel qui elle fait de l'impression numérique, tout format et surtout support.
D'accord.
Voilà, nous sommes une trentaine de salariés. Et ces entreprises existent pour PIC 92 depuis plus de 50 ans et Image Eurovisuel depuis un peu plus de 30 ans maintenant.
C'est une entreprise familiale
ou bien... Oui, c'est une entreprise familiale et nous avons repris les deux sociétés avec mon frère.
D'accord, très bien. Bien. Et donc vous êtes juge consulaire.
Donc je suis juge consulaire depuis 2014. Voilà, et c'est tout à fait passionnant.
Oui. Donc vous êtes juge consulaire avant tout, mais vous êtes aussi présidente de la 6e chambre des procédures collectives et tout à l'heure on reviendra sur ces procédures collectives. Merci Corinne. Géraud Fontanier, donc vous-même êtes juge consulaire et votre parcours, Géraud.
Voilà, donc moi je suis un ingénieur de formation, j'ai travaillé beaucoup dans l'industrie. Mes 13 dernières années d'activité professionnelle, j'étais associé dans un cabinet de chasse de tête à Paris. Et puis, au moment où j'ai pris ma retraite, eh bien, j'ai rejoint le tribunal de commerce en tant que juge consulaire. C'était en 2019.
Très bien. Et donc, vous êtes, président?
Voilà, je suis président d'une chambre de contentieux général, la chambre numéro 3. Donc qui traite les dossiers de contentieux, les différents en fait entre commerçants.
Oui, on verra tout à l'heure le détail de cette chambre. Merci Géraud. Et Catherine Duchesne, donc merci d'être avec nous à nouveau, Catherine.
Merci Jacqueline. Alors moi je suis aussi de formation ingénieure et puis après avoir été salariée pendant de nombreuses années, j'ai créé ma société en 2009 à Enghien. C'est une agence de communication qui est spécialisée dans le développement packaging. Et en 2018, on aura l'occasion d'en reparler, j'ai été élue juge consulaire. Donc on démarre toujours par le contentieux et je suis maintenant présidente d'une chambre un peu particulière au sein du contentieux, c'est la chambre de formation des nouveaux juges.
Très bien, très bien. Oui, on va voir toutes les strates de cette institution. Alors moi j'avais envie de préciser aussi que je trouve que c'est important de dire qu'en France l'origine des tribunaux de commerce remonte au Moyen-Âge. Il s'agit de juridictions consulaires établies pour régler les différends entre marchands et au fil des siècles ces institutions ont évolué pour devenir les tribunaux de commerce tels que nous les connaissons aujourd'hui, jouant un rôle crucial dans la régulation des activités économiques et la protection des droits des entreprises. Vous confirmez c'est cet historique,
Jérôme? Oui, bien sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est que, au fond, les commerçants préféraient être jugés par leur père que par, je dirais, des conseillers au Parlement qui ne comprenaient pas très bien sous l'Ancien Régime, donc. Et la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que c'est une juridiction de premier niveau. Hein, c'est-à-dire que dès qu'il y a un litige, eh bien, on peut aller essayer de trouver une solution à ce litige. Et puis, si finalement la solution qui a été retenue, la décision qui a été retenue n'est pas bonne, à ce moment-là, on fera appel. Donc, oui, on traite véritablement d'une grande variété de litiges, toutes celles que l'on peut rencontrer dans la vie quotidienne des entreprises.
Merci Géraud pour cette précision. On marque une courte pause et puis on commence notre interview. Merci.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM. Et donc à présent, je me tourne vers vous, Corinne Belleville, donc présidente des procédures collectives. Vous nous l'avez dit, vous êtes juge depuis 2014, donc aujourd'hui présidente. Pour nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce qu'une procédure collective ?
Alors, une procédure collective, c'est une procédure qui vise à aider les entreprises en difficulté pour leur permettre de retrouver une situation pérenne. Les conditions d'ouverture d'une procédure collective dépendent essentiellement de la présence ou non d'un état de cessation des paiements.
Oui.
S'il n'y a pas état de cessation des paiements, l'entreprise demandera plutôt une sauvegarde. S'il y a un état de cessation des paiements, ça sera un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire.
D'accord.
Mais qu'est-ce que c'est qu'une cessation des paiements ?
Oui. Alors, une cessation des paiements, c'est quand l'actif disponible de la société n'est plus suffisant pour faire face à son passif exigible. Quand on ouvre une procédure, les dettes de l'entreprise sont gelées. Le chef d'entreprise n'est plus autorisé à payer les dettes qui sont nées avant l'ouverture de la procédure collective et les créanciers ne peuvent plus agir individuellement en recouvrement des créances.
Oui, c'est vraiment l'arrêt total de l'entreprise et selon ce que vous allez décider vous derrière, elle continuera ou pas.
Alors c'est pas l'arrêt total de l'entreprise, c'est l'entreprise qui à un moment donné gèle ses dettes.
Oui.
L'objectif, c'est de reconstituer la trésorerie de l'entreprise, de poursuivre l'activité et de maintenir tous les emplois.
Bien sûr. Et à quel moment intervient le tribunal dans la vie d'une entreprise en difficulté ?
À quel moment il intervient ? Alors, le dirigeant de l'entreprise peut faire une déclaration de cessation des paiements. C'est souvent ce qui se passe. Ils demandent le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Le jugement d'ouverture est rendu par la chambre des OPC, qui est la chambre qui siège le lundi après-midi, ouverture des procédures collectives. Donc, soit une déclaration de cessation des paiements, soit une requête du ministère public. Soit une assignation d'un créancier, par exemple, oui, ou d'URSSAF, qui peut demander le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une entreprise.
Et en pourcentage, quel est le plus courant?
C'est les créanciers. Je pense que c'est surtout beaucoup d'assignations.
Oui.
Et ensuite, c'est les déclarations de cessation des paiements.
Très bien. Et alors, qui désigne le juge commissaire?
Alors, le juge commissaire, il est désigné par le tribunal, par le jugement qui va décider de l'ouverture de la procédure collective et qui va également nommer un administrateur et un mandataire judiciaire, ainsi que le commissaire de justice.
Et quelles sont les qualités essentielles pour être un bon juge commissaire?
Pour être un bon juge commissaire, c'est un peu les qualités de...
Faut ressembler à Corinne.
C'est tous les juges. Non, c'est les qualités de tous les juges consulaires. Faut être à l'écoute, en fait, des gens. Que ce soit le débiteur ou les créanciers ou les salariés. Beaucoup d'écoute et beaucoup de rigueur.
Oui.
L'objectivité, de neutralité, d'objectivité.
Il faut avoir beaucoup d'humilité aussi et de l'impartialité.
Bien sûr, oui, c'est toute la difficulté de votre rôle parce qu'il faut à la fois prendre en compte la situation mais rester dans le droit pour lequel vous jugez. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui il est possible de sauver des entreprises malgré tout et dans quelles conditions?
Alors oui, heureusement qu'on arrive à sauver des entreprises. Alors, soit l'entreprise arrive à générer des résultats positifs et donc à reconstituer de la trésorerie. On part sur un plan de redressement qui va être étalé sur, selon la situation de l'entreprise, sur entre 8 et 10 ans en moyenne. Soit, si le plan de redressement n'est pas possible, on envisage un plan de cession.
Oui.
Avec toujours en tête d'essayer de maintenir les emplois de l'entreprise.
Oui, c'est le plus important, bien sûr.
Et après, troisième solution, malheureusement, c'est la liquidation judiciaire.
Merci Corinne. Corinne et Catherine et Géraud, je propose qu'on marque une pause et on revient juste après avoir écouté Michel Berger et quelques mots d'amour. Je crois qu'on en a bien besoin ce matin.
Que je suis seul parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour. De mon village capital, où l'air chaud peut être glacial, je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. Et dans ces boîtes pour danser, les nuits passent inhabitées. J'écoute les battements de mon cœur me répéter. Aucune musique au monde ne saura remplacer. Quelques mots d'amour. Je te sourire les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. De mon village sans l'heure, les docteurs greffent les cœurs, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour.
IDFM Radio 98 FM.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, j'accueille une délégation du tribunal de commerce de Pontoise. Corinne Belleville, dirigeante associée, juge consulaire, présidente de la 6e chambre des procédures collectives. Jérôme Fontanier, juge consulaire, président de la 3e chambre de contentieux du tribunal. Et Catherine Duchesne, chef d'entreprise, agence de communication, juge consulaire et présidente de la 10e chambre de contentieux général. Alors, là, je m'adresse un petit peu à vous trois. Le tribunal, aujourd'hui, souhaite recruter une dizaine de nouveaux juges pour 2027. Et j'ai pu voir en préparant le dossier, Géraud, vous m'avez envoyé des précisions. En fait, plusieurs tribunaux ont la même démarche actuellement. Donc, pourquoi ce besoin accru de nouveaux juges? Moi, je me demandais si c'était en relation avec une augmentation de défaillance. Géraud?
Alors, l'augmentation de défaillance, on l'espère, est conjoncturelle.
Oui.
Bon. Ce n'est pas à elle seule la seule raison. Il y a une autre raison qui est plus vertueuse. C'est la volonté, en fait, de la chancellerie. De développer en fait la prévention des défaillances des entreprises ou les règlements amiables des différends. Donc tout ça induit également une charge qui est une charge supplémentaire. Et puis enfin, il y a tout simplement le développement de l'économie elle-même. Il y a une croissance régulière, progressive du nombre de litiges et d'entreprises en difficulté, tout simplement parce que l'économie croît.
Voilà. Oui.
Donc tout ça amène régulièrement à revoir le nombre de juges consulaires qui sont attribués à chaque tribunal. Dans notre cas, le tribunal de Pontoise a demandé à la chancellerie, à travers la cour d'appel de Versailles à laquelle nous sommes rattachés, 5 postes de juges consulaires supplémentaires, sachant que par an, il y a environ 5 postes à renouveler qui sont liés à départ. Donc nous avons
systématiquement,
nous avons environ une dizaine de postes de juges consulaires à pourvoir en 2027.
Merci Géraud pour cette précision. Catherine,
pour compléter ce que dit Géraud, il est vrai que de plus en plus les juges qui arrivent au tribunal sont encore en activité professionnelle. Et c'est parfois difficile pour eux d'être à la fois dans une chambre de contentieux, de s'occuper de la prévention ou du référé. Donc c'est vrai qu'ils peuvent pas multiplier les charges et on essaie d'avoir
de mieux répartir.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm.
Merci Catherine Duchesne. Alors quel profil recherchez-vous en priorité? Donc je m'adresse à vous trois aussi. Corinne?
Les profils, ce sont des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs, plutôt en activité ou en fin d'activité sur les dernières années avant la retraite. Mm-hmm. Et il faut des gens qui soient très disponibles.
Oui.
Parce que être juge consulaire, c'est quand même un investissement important.
Oui, en termes de temps.
En termes de temps.
À la fois du temps au tribunal et probablement chez soi pour des jugements à rédiger.
Alors,
selon votre qualification.
L'expérience que j'ai eue quand j'étais au contentieux, c'est que je passais, je passais beaucoup de temps sur un dossier. J'aimais bien le faire le week-end. Et je m'étalais sur ma table de salon où je mettais les dossiers des parties et je regardais toutes les pièces avant de pouvoir rédiger mon jugement. Ça, c'était la partie contentieux. Géraud ?
Oui, je voulais juste compléter sur quels sont les profils finalement que l'on, que l'on recherche. Il y a quand même quelques contraintes. Par exemple, vous ne devez pas avoir de casier judiciaire.
Bien sûr, oui, évidemment.
Voilà. Bon, donc ça veut dire qu'il faut avoir payé ses amendes.
Oui, oui, hein? Oui.
Voilà. Bon.
Ce qui n'est pas le cas pour les députés. Hein, on
voilà.
Est d'accord.
Vous avez d'autres contraintes. Par exemple, vous ne pouvez pas cumuler une représentation d'élus, voilà, dans une municipalité ou a fortiori à un niveau national, et une fonction de juge consulaire.
Ah, très bien.
Bon.
Ouais.
Une autre contrainte, votre entreprise doit être une entreprise du Val d'Oise ou dans un département limitrophe au Val d'Oise.
Bon. Il y a un nombre d'années d'existence aussi.
Catherine.
Voilà.
Oui.
Donc il y a un certain nombre d'aspects techniques à ce qui vous permet de rendre éligible. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'a dit Corinne. Ce que l'on recherche, ce sont des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants qui sont prêts à s'investir, à investir une part de temps significative au profit, en fait, de la collectivité et du tribunal.
Alors moi, la question que je me pose, c'est très bien, vous êtes dirigeant, vous êtes cadre supérieur, mais est-ce qu'il faut avoir des notions de droit quand même? Parce que c'est primordial.
Absolument pas.
Catherine,
non. En fait, c'est l'intérêt, je trouve, du tribunal de commerce, c'est qu'il y a une formation qui est assurée, parce qu'on vient tous d'univers différents. Certains ont fait des études de droit, tant mieux, mais d'autres pas du tout, c'était mon cas. Et la première année est vraiment consacrée à la formation. C'est-à-dire qu'on suit, il y a une formation obligatoire de 8 jours à l'ENM, c'est l'École Nationale de la Magistrature. Donc on n'est pas obligé d'aller à Bordeaux, hein, pour ceux que ça pourrait effrayer. Il y a des antennes en région parisienne. Et donc on fait du droit qui est lié aux affaires commerciales, hein, évidemment. Et puis ensuite, du moins c'est le cas à Pontoise, justement il y a cette chambre de formation dont je suis la présidente, et on est vraiment qu'avec les nouveaux juges. Donc on leur apprend à écouter une affaire, à tenir une audience, à préparer un délibéré, à rédiger un jugement. Ils ont en parallèle une formation avec des personnes du greffe, du tribunal, qui sont des professionnels, qui vont revenir un petit peu sur ce qui a été fait, appris à l'ENM, mais en donnant des cas plus concrets. Et puis comme on est en petit groupe par rapport aux formations à l'ENM où les groupes sont de 25 personnes, ça permet donc aux nouveaux juges de Pontoise de poser plus de questions. Et là, on les encadre. Donc je suis avec un autre juge qui m'aide dans cette fonction, Nicolas Selle, et on est vraiment, c'est une sorte de petite pépinière, hein, pour que vraiment à la fin de l'année les juges soient en mesure d'intégrer une chambre classique de contentieux. Et de toute façon, on passe toujours par le contentieux avant de rejoindre les procédures collectives, notamment.
Oui. Oui, Corinne.
Oui,
merci Catherine.
Effectivement, pour pouvoir être juge commissaire, donc dans les procédures collectives, il faut avoir exercé pendant 2 ans au contentieux.
Oui, avoir un petit peu d'expérience dans le domaine. Oui, c'est parce que le contentieux général, c'est surtout c'est sur dossier, je crois, c'est ça. Alors que le juge commissaire, c'est les procédures collectives, vous recevez les non, c'est les dans les deux cas. Vous recevez les justiciables?
Aux procédures collectives, le juge, il va recevoir les débiteurs, il va recevoir les administrateurs, les mandataires judiciaires. Au contentieux, vous avez des dossiers, mais vous avez les plaidoiries, donc vous écoutez les parties.
Oui, c'est ça. Catherine, après ces 8 jours de formation et puis cette année,
Est-ce qu'il peut se trouver qu'un juge dise je suis pas prêt, je
Alors, oui, c'est effectivement, il se sent vraiment pas prêt, il a la possibilité de refaire une année. Ça arrive, je pense que c'est vraiment exceptionnel.
Oui.
Parce qu'en général, on est vraiment là à leur côté, c'est vraiment une année civile. Et on est là en permanence avec eux pour trouver des méthodes ou les aider vraiment à progresser.
Mmh. Et puis alors, le fait que vous parliez de chambre, ça veut dire que les décisions sont prises collégialement.
Oui,
c'est-à-dire,
c'est
voilà,
ça.
Vous,
exactement. C'est, ça, c'est
le
vrai.
Le juge n'est pas isolé dans son
voilà,
coin.
Voilà, c'est ça. Pour toutes les chambres de contentieux, on écoute des affaires. Donc, une chambre, c'est un groupe, hein, avec un président et puis les membres. Alors, le président n'a pas plus de pouvoir pour les.
Oui.
Les décisions.
Oui, c'est plus pour mener les débats.
Voilà, c'est ça. Puis gérer un certain nombre de choses, de points même administratifs éventuellement. En fait, lorsqu'on écoute une affaire et le juge qui entend l'affaire, donc ça c'est vraiment pour le contentieux, on entend les plaidoiries des parties, parce que avant que ça arrive vraiment en plaidoirie, il y a un certain nombre d'échanges, de conclusions, ce qu'on appelle les conclusions entre les parties. Et lorsque les parties sont en état, ils viennent donc devant une des chambres et c'est un juge chargé d'instruire l'affaire qui va écouter et dans ce qu'on appelle l'instruction de l'affaire, ça, c'est peut-être pas tout à fait le même sens que ce que les personnes peuvent entendre ailleurs. Nous, c'est instruire, c'est-à-dire vraiment étudier le dossier parce que les dossiers sont lourds, donc il faut vraiment bien réfléchir, travailler, les étudier, regarder les pièces, c'est ce que disait Corinne. Et chaque juge qui a un dossier, ça c'est en première année, au début de la première année, mais ensuite on peut avoir jusqu'à 3 ou 4 affaires, présente devant les autres juges, lors du délibéré, l'affaire et les décisions qu'il envisage. Et c'est la chambre en effet se prononce sur les décisions. Ce sont des décisions collégiales.
Non, mais c'est important pour nos auditrices auditeurs parce que qu'ils ne pensent pas que voilà ils sont lâchés dans la nature.
Non, pas du tout.
Seul. Oui. La tentation doit être grande, il me semble, vu de ma fenêtre, de parfois juger en équité plus qu'en droit. Est-ce que c'est pas le revers?
Oui, je laisse Géraud.
Oui, c'est ce qu'il faut éviter.
Oui.
Voilà, parce que juger en équité. Voudrait dire souvent avoir une idée peut-être préconçue de où se trouve le bien et où se trouve le mal, où se trouve celui qui est honnête et celui qui est malhonnête. Bon. Et ça c'est très subjectif et très très risqué.
Oui,
et
voilà. Faut
le principe même, le principe même de la justice et des pays qui sont finalement fonctionnent sur la base du droit. C'est qu'il y a des règles, que ces règles sont écrites, qu'elles sont connues, et qu'on va appliquer ces règles. Mmh. Voilà. Et ces règles, l'application de ces règles, c'est ce qu'on appelle juger en droit.
Oui.
Donc, par rapport à un dossier, on va identifier quels sont, en fait, les articles de loi qui s'appliquent. Alors, chacune des parties va les soulever, va dire, moi, je m'appuie sur tel article de code et moi sur tel autre. Et finalement, le rôle de la chambre, le rôle des juges, c'est de vérifier que les conditions d'application de ces articles sont bien réunies. Et il va les vérifier, non pas parce qu'on le leur dit, mais parce que les parties ont fourni des pièces qui apportent la preuve, en fait, que ces conditions sont réunies.
C'est ça, il faut juger sur preuve.
Il faut juger sur pièce.
Oui, sur pièce.
Voilà.
Merci Géraud pour cette précision. Alors, très concrètement, et on le redira avant la fin de l'émission, qui faut-il contacter pour candidater au tribunal de commerce de Pontoise? Géraud, c'est vous.
Alors,
qui...
oui.
Vous m'aviez dit avant l'émission que vous étiez le rameur.
Voilà, je suis le rameur.
Ramer.
Alors, on peut me contacter. Le plus naturel, c'est tout simplement d'écrire au président du tribunal. Hein, parce que nous n'avons pas dit combien il y avait de juges, mais il y a aujourd'hui 50 juges au tribunal de commerce. Bon. Donc, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est pas beaucoup parce que ces 50 juges sont évidemment connus personnellement par notre président, donc Yves Charron, qui a à cœur effectivement de d'entretenir une atmosphère conviviale et qui reçoit donc tous les candidats.
Oui, voilà. Bien sûr.
Donc on peut parfaitement écrire au président donc du tribunal de commerce, Yves Charron, ou on peut prendre contact avec n'importe quel juge qui, évidemment, va faire suivre et va faire remonter cette candidature, puisque nous en cherchons.
Oui.
Bon, ça paraît naturel. Et de manière très probable, avant d'encontrer Yves Charron, la personne aura un entretien téléphonique avec moi-même ou un autre juge pour essayer de répondre à ces questions et préciser, effectivement, s'il réunit bien tous les critères d'éligibilité. A-t-il payé toutes ces amendes?
Je sens que c'est pas important pour vous, Jérôme. Oui, il ne faut pas être forcément coopté.
Non, il ne faut pas du tout être coopté.
On peut vraiment se présenter spontanément.
Voilà, voilà. D'ailleurs, ça a été mon cas. Je me suis présenté spontanément au tribunal de Pontoise. C'est pas d'ailleurs une cooptation. Il y a un processus de sélection. Il y a un certain nombre de candidats qui ont été identifiés ou qui sont présentés et qui ensuite vont passer un certain nombre d'entretiens, passer des tests, se présenter devant une commission, et finalement, c'est une commission qui sélectionnera, en fait, les candidats de l'année.
Très bien. Merci, Géraud. Alors, je reviens à vous, Corinne Belleville. Qu'est-ce que cette fonction vous a... Alors, non, déjà, comment vous-même vous êtes
arrivée au tribunal? Alors, oui. Alors, moi, c'est assez amusant. C'est un soir, mon mari est rentré à la maison. À l'époque, il travaillait sur le coin de Pontoise, Sergi Pontoise. Il est arrivé avec le petit magazine de Pontoise. Il m'a dit, tiens, le tribunal de commerce recherche des juges au tribunal. Il m'a dit, mais je crois que je vais postuler. Alors, j'ai pris le petit magazine, j'ai lu l'annonce et je lui ai dit, non, toi, tu sais pas toi qui va postuler, c'est moi qui vais y aller. Et dès le lendemain, j'ai fait ma lettre de motivation. J'ai contacté à l'époque Fernand qui s'occupait du recrutement et j'ai eu mon premier entretien. Voilà, après, j'ai passé le test. Qui était c'était une affaire et il fallait rédiger un jugement, tout cas le déroulé du jugement. Et ensuite j'ai eu l'entretien avec les 10 présidents de chambre. Voilà, et je regrette pas, c'est tout à fait passionnant et très enrichissant.
Alors c'est pas indiscret, pourquoi vous plutôt que lui? Et pourquoi pas tous les deux?
Tous les deux, non, ça serait pas possible, je pense. Parce que j'y suis allée. Pour moi, j'avais déjà une fonction juridique. Ah hein, oui, j'ai fait du droit. Ce sont mes études. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Le métier d'avocat.
Très bien.
Voilà, donc bon. J'y suis allée sans hésiter et très heureuse de pouvoir le faire.
C'est ça. Et donc, qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement et professionnellement?
Alors, professionnellement, rien. Parce que quand on est juge, on ne mélange pas sa profession et le fait d'être juge. Ça m'a apporté beaucoup d'enrichissement. Vous faites beaucoup de rencontres, vous apprenez beaucoup de choses. Et puis vous êtes au service
de l'intérêt général. Oui, ça c'est bien. Merci infiniment, Corinne, pour votre éclairage concret sur les procédures collectives et puis votre engagement au service des entreprises en difficulté. Merci à vous. On marque une pause et la tentation est trop grande. On va écouter Rame, Rameur, Ramé d'Alain Souchon.
Pagaie sur cette vieille loi. Pagaie, t'arrivera nulle part. Errons là au guetteur. Vois-tu ailleurs, bout de bois,
caoutchouc. Flotte-moi, flotte-moi plus loin que chez nous. Baigne-moi, baigne-moi, tu m'as menti. Ailleurs, ailleurs, c'est comme ici. Ram, ram, rameur, ramé. On avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on te mène en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller. Tais-toi et rame. Je m'en vais, mais l'eau est lasse. Chaumont, l'ange est à peine en boise. Amour, cordon, ficelle serrée. Lâchez, lâchez, je veux m'en aller. Rame, rame, rameur, ramé. On avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on te mène en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller. Tais-toi et rame, rame, rameur, ramé. On avance à rien dans ce canoë. On avance à rien dans on se mène en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, mais en aller. Tais-toi et rame. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller. Tais-toi et avance à rien dans ce canoë.
IDFM Radio, 98 FM.
Merci d'être resté avec nous. C'est l'économie en direct et aujourd'hui, 10 mars 2026, je reçois une délégation du tribunal de commerce de Pontoise avec Corinne Belleville, dirigeante associée, juge consulaire, présidente de la 6e chambre des procédures collectives, Géraud Fontanier, juge consulaire, président de la 3e chambre de contentieux, et Catherine Duchesne, chef d'entreprise dans une agence de communication, juge consulaire et présidente de la 10e chambre du contentieux général. Alors Géraud Fontanier, donc merci déjà, je crois que c'est vous qui avez orchestré cette rencontre et je vous en remercie. Vous dites très modestement que vous êtes ingénieur, mais vous êtes quand même ingénieur de l'école polytechnique de la promotion 75 avec un master de sciences en mathématiques appliquées. Je précise ça pour dire que voilà, le profil hein, des juges consulaires est très très varié. C'est important toujours pour nos auditrices et auditeurs de savoir que, quelle que soit leur formation, ils peuvent devenir juges consulaires. Vous-même, Géraud, depuis quand êtes-vous juge consulaire et pourquoi avoir accepté cette charge ?
Alors, je suis juge consulaire depuis donc 2019. Et en fait, ma motivation pour rejoindre cette fonction, je dirais, c'est par atavisme. Alors, c'est un peu paradoxal, mais...
De père en fils.
Voilà, c'est de père en fils. C'est de mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père était avocat agréé auprès du tribunal de commerce de Toulouse.
D'accord. Voilà.
Donc, je suis plutôt un ingénieur par erreur, en réalité. Et donc, quand j'en ai eu la possibilité, je me suis dit que j'aimerais découvrir ce qui était le monde de mes parents et de mes grands-parents, le monde d'univers judiciaire.
Oui.
Voilà. Sachant que, de tout temps, j'ai toujours entendu parler des audiences solennelles du tribunal de commerce. Donc, ça ne m'a pas étonné d'y assister à une d'entre elles. Voilà.
Très bien, merci pour cette précision. Alors, quelles sont les grandes missions d'un tribunal de commerce ?
Alors, il y a deux grandes missions, ou peut-être quatre. Les deux grandes missions, on les a déjà évoquées, nous en sommes d'ailleurs les représentants, c'est d'une part le contentieux, c'est-à-dire les différends entre deux commerçants. Je suis pas assez d'accord sur la facture, je suis pas d'accord sur les travaux, et donc je demande la résolution du contrat ou des dommages et intérêts. Voilà, c'est ça en fait, hein, un contentieux, un différend. Et la deuxième grande mission, c'est le traitement des difficultés des entreprises. C'est celle qu'a évoquée Corinne. Finalement, l'entreprise n'a plus la trésorerie suffisante pour faire face, en fait, à ces dettes qui sont immédiatement exigibles. Voilà. Et donc là, il y a différentes dispositions qui vont de la sauvegarde, le redressement et la liquidation. Il y a deux autres missions, quand même. L'une qu'on a brièvement évoquée, c'est la prévention,
oui.
Qui est assez mal connue, qui est pourtant très importante.
Oui, puisque, dont je sais qu'elle est très, très importante.
Le tribunal n'a pas simplement comme but, finalement, de sanctionner. On y reviendra quand même sur les sanctions. Et là aussi, le but d'essayer d'aider le tissu économique à, finalement, prospérer. Et donc, le tribunal est amené à recevoir un certain nombre de d'entreprises qui manifestement présentent des signes en fait de difficultés. Voilà, c'est ce qu'on appelle la prévention. Et associé à cette notion de prévention, il y a également les notions de règlement amiable qui sont des dispositifs donc qui se développent sous l'impulsion donc de la chancellerie. Ça, c'est le troisième pied de la chaise. Et il y a un quatrième pied de la chaise, ce sont les sanctions. Car il y a véritablement un certain nombre de dirigeants indélicats ou des dirigeants malhonnêtes qui sont finalement une plaie pour l'économie. Et cela, eh bien, il faut tout simplement les sanctionner de façon à les écarter d'une vie économique dans laquelle ils ont provoqué en fait des dommages qui sont importants. Donc, prévention, contentieux, difficulté des entreprises, sanctions.
Je vous remercie de parler des sanctions et de préciser que les sanctions sont surtout vis-à-vis des personnes indélicates, malhonnêtes, parce que l'année dernière j'avais reçu votre président de chambre, le président du tribunal Yves Charron, avec je crois le président de la chambre de prévention Romain Lemaire, et Monsieur Yves Charron avait vraiment insisté pour dire que le tribunal n'était pas là pour sanctionner systématiquement, mais au contraire, trouver des solutions pour aider les justiciables, sauf si ces personnes sont malhonnêtes, bien évidemment.
Voilà. Ouais. D'ailleurs, on peut le nombre de sanctions qui sont prononcées est très très faible par rapport au nombre d'affaires. Mmh. On n'a pas donné les ordres de grandeur, mais j'en profite.
J'allais vous le demander. Voilà. Quel type de litige, justement, ou de situation?
Mais si vous voulez, le tribunal de commerce de Pontoise, il prononce 18 000 décisions par an.
Ah oui.
Donc oui,
c'est énorme.
C'est énorme.
Oui,
bon.
Oui.
Alors dans ces 18 000 décisions, il y a 5 500 jugements de contentieux général qui se sont présentés sous différentes formes. Ça peut être des jugements classiques, ça peut être des référés, ça peut être des injonctions de payer, voilà, des ordonnances, autrement dit. Pratiquement 10 000 à 11 000 décisions et jugements de procédures collectives et d'ordonnances de juges commissaires. Vous voyez, donc vous voyez, on va dire 11 000 et 5 000, ça fait 16 000 par rapport à 18 000. Il reste 2 000 dossiers et les sanctions doivent représenter, tu as peut-être le chiffre, mais c'est quelques centaines.
Ah oui, 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 c'est vraiment très peu. Corinne ?
On a eu 135 décisions d'interdiction de gérer en 2025, 31 faillites personnelles et 14 comblements de passifs. Donc, oui. C'est pas énorme.
Ce qui veut dire que tout le reste, ce sont des... Alors, bien sûr, il y a quand même des mises en liquidation. Ça, c'est oui. incontournable. Oui. Mais il n'y a pas... Comment le chef d'entreprise n'est pas forcément sanctionné.
Non.
Non, c'est ça. Oui, c'est important de le dire.
Non, non.
Merci beaucoup. Vous venez de répondre à ma question. J'allais vous poser combien de jugements étaient rendus. Et quelle place occupe justement la médiation et les règlements amiables également, Géraud?
Alors, c'est quelque chose qui est en développement. Et je n'ai pas de statistiques ou de chiffres là en tête que je peux donner. Il y a donc le premier point qu'il faut retenir, c'est que c'est l'office du juge, de tous les juges du contentieux, de rechercher un règlement amiable s'il sent que c'est possible. Donc ça peut se faire dans le cadre, je dirais, d'une plaidoirie où les juges s'aperçoit que finalement il n'y a pas grand chose qui sépare les parties adverses. Bon. Une autre manière de le faire, c'est au moment où les parties en fait présentent leur dossier, donc avant la plaidoirie, dans ce qu'on appelle la mise en état, qu'on peut s'apercevoir effectivement le président de la chambre de mise en état, qui est une chambre de contentieux particulière, une chambre qui permet de s'assurer que le contradictoire est réuni, peut constater qu'il y a raisonnablement des chances de rapprocher les parties. Et à ce moment-là, il va leur demander de prendre rendez-vous avec un juge, un conciliateur judiciaire,
ah oui.
qui nous avons, je crois, quatre conciliateurs judiciaires au tribunal, et donc il va les affecter à l'un d'entre eux. Et à ce moment-là, les parties se réuniront avec ce conciliateur qui essaiera de rapprocher leur point de vue. Et s'il arrive à ce moment-là, l'affaire sera close, et s'il n'y arrive pas, l'affaire reviendra pour être plaidée. Et puis il y a un nouveau dispositif qui est actuellement en cours de mise en place, qui s'appelle l'audience de règlement amiable, où là, le juge, le président de la chambre de mise en état, ne va pas demander aux parties de se rapprocher d'un conciliateur de justice, il va les convoquer devant un juge qui a des pouvoirs un peu plus étendus, pour essayer, là encore, de rapprocher, en fait, les points de vue. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont des dispositifs judiciaires. On peut également nommer des médiateurs, c'est un dispositif plus coûteux, qui permettent, en fait, de déboucher sur ces règlements amiables. Le nombre de règlements amiables du tribunal, je n'ai pas malheureusement le chiffre en tête.
Oui, mais c'est important de le dire parce que bon, on répète que vous êtes là aujourd'hui pour donner envie à nos auditrices, auditeurs de rejoindre le tribunal de commerce, mais c'est important aussi de préciser les procédures, enfin les process, parce que si d'autres chefs d'entreprise nous écoutent et sont en difficulté, je crois qu'il ne faut pas hésiter à leur dire de se rendre au tribunal de même, de pas attendre que ça soit catastrophique.
Oui. Oui, parce que même pour les entreprises en difficulté, il y a un certain nombre de dispositifs, et je pense notamment aux dispositifs de sauvegarde, qui vont les aider à éviter en fait de
liquider.
De liquider en redressement. Mais bon, là, Corinne oui, on... est mieux placée que moi.
Et aussi, nous en parlons chaque fois que je reçois des membres du tribunal de Pontoise, dire que la prévention est très, très, très importante, c'est-à-dire que si on sent qu'il y a des difficultés, ne pas hésiter, que c'est anonyme, confidentiel, et
oui.
Donc...
c'est là-dessus qu'il faut insister, c'est que les entretiens de prévention se font effectivement avec... un juge qui n'est pas en robe, ce qui veut dire qu'il n'est pas là pour juger. Il est là en fait pour informer. L'ensemble de ce qui lui est dit est confidentiel, ne pourra pas être utilisé dans le cadre d'une procédure ultérieure. Et lui-même, ce juge qui a entendu et informé en fait l'entreprise, ne pourra pas siéger dans une formation qui aurait à traiter des difficultés qui n'auraient pas été résolues.
Oui, oui.
Voilà. On est donc véritablement dans une mission en fait d'accompagnement, mais pas une mission de conseil, une mission d'accompagnement. Les conseils sont apportés par les conseils juridiques,
les avocats,
etc. Les experts comptables. Voilà.
Oui. Alors, Géraud, quel souvenir d'audience vous a particulièrement marqué, si vous en avez une?
Oui, les souvenirs qui m'ont le plus particulièrement marqué, ce sont certainement les premières audiences en tant que juge que j'ai pu avoir, parce que je n'étais pas très sûr de moi, je savais pas très bien, voilà. Et
quand donc, on vous a lâché dans la
voilà,
fosse,
quand on m'a lâché dans la nature, voilà, j'avais été formé très bien,
oui,
très bien,
oui.
Mais enfin bon, voilà. Et je me suis retrouvé. Dans une affaire qui était une affaire de vêtements, de vente d'automobiles, de collection. Cette automobile de collection, elle était belle sans doute pour les collectionneurs, mais finalement elle marchait pas très bien. Voilà, il y avait un problème dans le moteur. Vraiment. Et là j'ai pu, c'était la troisième ou quatrième audience que je tenais. J'ai pu précisément leur dire, écoutez, en réalité, vous fichez du moteur, ce qui vous intéresse, c'est la rareté et la beauté mécanique de ce véhicule. Vous n'êtes pas très loin, vous pourriez tout à fait vous rapprocher, et ils en ont convenu. Alors j'étais donc très content de cette affaire, parce qu'on m'avait pas dit qu'on pouvait...
Surpris de tant de facilité.
Voilà. Et donc je venais de terminer ma activité professionnelle, et donc j'aurais donné un délai qui me paraissait raisonnable, qui était un mois pour trouver un accord. Les avocats m'ont regardé avec des yeux ronds, et ont respecté la décision souveraine du juge. Et puis, au bout d'un mois, ils m'ont demandé un renvoi. Et puis, au bout de deux mois, ils m'ont demandé encore un renvoi. Et finalement, ils ont concilié au bout de six mois. Voilà. Et j'en ai retenu une chose, c'est que finalement, il y a un temps judiciaire.
Ah oui.
C'est-à-dire que il faut un certain temps, en tout cas pour les conciliations, peut-être aussi pour les affaires plaidées, pour que les passions ou les égaux s'apaise.
Oui, que ça mature et
voilà.
Que...
Ouais. C'est le temps judiciaire. Alors, sans doute ne faut-il pas avoir un temps judiciaire analogue à celui qu'on retrouve dans le pénal, où là, ce sont des années. Voilà. Mais en gros, une affaire au tribunal, en tout cas dans le contentieux, elle est bouclée en 6 à 8 mois. Entre le moment où l'on pose, où on assigne, et le moment où le jugement est rendu.
Oui, sauf que dans le cas présent, c'est vous qui aviez proposé un mois, et c'est eux qui ont décidé six mois. Donc
oui,
vous étiez.
On peut le voir comme ça, ou on peut dire que le juge avait flanqué le bazar puisqu'on lui demandait de décider quelque chose pour lequel ils étaient prêts à se soumettre à la décision souveraine.
Merci infiniment, Géraud Fontanier, pour votre témoignage sur la réalité du métier de juge consulaire. Et puis je vous ai pas demandé quel temps cela représente-t-il pour vous. Non, mais je crois que Corinne nous a dit qu'elle y passait ses week-ends, mais vous, Géraud ?
Alors, pour moi, c'est
une moyenne.
Dans ma fonction aujourd'hui au tribunal de commerce, j'ai cette fonction de président de chambre, et puis j'ai quelques petites fonctions annexes, qui fait que ça ne reflète pas forcément ce qu'un nouveau juge va passer. Bon. À titre personnel, pour répondre à votre question, c'est un mi-temps.
Oui. Voilà. D'accord.
Je pense que pour un nouveau juge, c'est moins que ça. Mais c'est quand même pas un dixième de temps.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et peut-être que Catherine qui
fait aussi la formation,
en fait, qui forme tous ces nouveaux juges, est la mieux placée pour répondre.
Oui. Alors, en fait, je parlais.
Merci, Géraud.
Je parlais tout à l'heure de la formation à l'ENM. Ça, c'est vraiment pour la première année, lorsqu'on est nouveau juge en formation. Donc, on a ces 8 jours c'est un jour par mois, qui sont répartis sur l'année. Et si on ajoute l'audience solennelle, comme il y a tout il y a la prestation de serment, enfin, on peut compter une journée en plus. Il y a un certain nombre d'audiences auxquelles les nouveaux juges, les anciens aussi, mais les nouveaux doivent assister. Ça va être les audiences de mise en état avec une préparation, des audiences d'ouverture de procédures collectives. Et dans notre chambre, comme on écoute des affaires, il y a des délibérés, il y a les jours d'audience, évidemment, avec les formations faites par nous ou par le greffe du tribunal. Donc, on peut dire qu'à peu près, il faut compter par an une trentaine de jours.
D'accord.
De présence,
oui,
physique. Et ensuite, voilà, et ensuite, répartie, hein, sur,
oui, bien
une
sûr,
année, bien entendu, il y a les vacances judiciaires qui collent avec les vacances scolaires, et s'ajoute à ça le travail chez soi pour la préparation des délibérés et la rédaction des jugements, sachant qu'il y a en moyenne 15 à 16 jugements par an, puisqu'on a 1 à 2 affaires par mois. Bon, après, ça dépend du dossier, ça dépend de la facilité de rédaction, de compréhension, d'analyse de chaque personne, mais on peut considérer que par jugement, il faut 4 à 6 heures facilement par jugement. Donc,
oui,
voilà.
Oui.
30
donc,
jours, 15, 16 jugements, ça donne un peu une idée du temps qu'on y passe. Ensuite, quand on arrive déjà en deuxième année, qu'on est en ce que j'appelle en chambre confirmée, on n'a plus les formations à l'ENM, il y a un petit
donc
peu moins de temps. Alors, on a plus de dossiers, parfois plus compliqués, mais ça permet une gestion peut-être personnelle plus facile. C'est vrai qu'il faut pas se leurrer. Corinne le disait tout à l'heure. Après, ça dépend de la profession qu'on exerce, si on est encore en activité, mais il faut quand même, ça peut empiéter sur le week-end, hein, ou les soirées.
Clairement. Je crois. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Géraud, en tout cas aussi pour votre témoignage. On fait une nouvelle pause et là, on va écouter le groupe Trio, l'hymne de nos campagnes.
Tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne
plaines, de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tout les animaux, que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau, servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Merci d'être resté avec nous. C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio, avec aujourd'hui la venue de trois juges consulaires du tribunal de Pontoise, Corinne Belleville, Géraud Fontanier et Catherine Duchesne. Alors Catherine, on l'a compris, être juge, c'est aussi de l'engagement.
Oui.
Vous-même, donc vous nous avez expliqué le temps qu'il faut y passer chaque semaine. On n'est pas obligé d'avoir des connaissances juridiques au départ. Comment concilier cette fonction avec une activité professionnelle, Catherine ?
Alors, mais il faut savoir jongler. Alors, là, c'est vrai que lorsqu'on recrute des juges, on leur dit bien qu'il va falloir quand même une certaine disponibilité. C'est par rapport à tout ce que je vous ai énoncé précédemment. Après, c'est l'organisation de chacun. Moi, je dirais la première année est la plus dure.
Oui.
Voilà. Mais
il y a tout à découvrir.
Oui, c'est ça. Mais c'est tellement passionnant parce que en fait, on arrive dans une chambre, on découvre, alors pour beaucoup, un nouvel univers. On découvre beaucoup de choses. Moi, j'avais pratiquement pas de connaissances en droit. Donc être immergé dans un univers complètement différent, découvrir énormément de choses, tout ce qui a un lien avec l'activité économique, les institutions de notre pays. Moi, j'ai trouvé ça passionnant.
Oui, presque une bulle d'oxygène.
Oui, alors c'est prenant, mais on apprend tellement. C'est tellement utile aussi pour la vie personnel et professionnel. Alors pas du tout pour c'est ce que disait Corinne tout à l'heure, hein, faire des affaires.
Ça vous enrichit votre gestion.
Exactement, parce que ça permet déjà de tirer des enseignements des affaires qu'on voit, de dire tiens, il faut pas faire la même bêtise. Évidemment, on apprend beaucoup dans le domaine du droit, donc ça permet d'éviter soi-même, à titre personnel ou professionnel, de faire des erreurs juridiques ou tous dans la vie courante, on signe des contrats. Alors les contrats professionnels, vous louez une maison pour les vacances, vous signez un contrat. Vous louez une voiture, vous signez un contrat, et ça évite
on prend une caution.
Prêt à la banque, on devient caution, même pour les enfants. Quand on a des enfants, on devient caution. Et parfois, on signe sans vraiment comprendre. Là, ça permet non seulement de comprendre ce qu'on signe, mais aussi d'éviter des situations illégales ou abusives. Et puis, ça sert vraiment dans énormément de domaines, pas seulement les contrats. C'est le droit. Je ne sais pas si vous publiez une photo de personne sans avoir le consentement, c'est le problème du droit à l'image.
Le droit à l'image,
ça peut aller facilement très loin, et je pense que comme ça permet aussi de protéger son activité, d'éviter de faire vraiment des erreurs importantes. Et puis ce que j'ai trouvé aussi passionnant, en ayant fait des études scientifiques, on peut penser qu'on a un raisonnement, mais c'est pas obligatoirement de la même façon. Là, je trouve que le droit et rédiger des jugements, analyser des dossiers, ça permet de structurer un raisonnement, parce que quand on rédige un jugement, il faut que pour le justiciable, tout soit clair. Donc, on doit analyser, poser les faits et puis motiver, argumenter et prendre une décision mais en lien avec le droit, mais en ayant motivé par rapport à l'analyse du dossier. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui sert beaucoup par la suite, enfin pour tout.
Je comprends. Merci Catherine. Géraud ?
Oui, je voulais juste compléter en termes de comment concilier activité professionnelle et activité de, en tant que juge consulaire. Le nombre de jours de présence au sein du tribunal, on a vu, c'est globalement 30 jours. Mais ces 30 jours sont planifiés un an à l'avance.
Oui, d'accord.
Et ils sont répartis, il n'y a pas des blocs, ils sont répartis, c'est en général un jour par semaine. Cela permet de véritablement bien anticiper son organisation pour pouvoir absorber en fait cette charge. En revanche, on est libre on s'organise comme on le souhaite pour faire la rédaction, bien sûr, des jugements, mais les dates sont impératives.
Oui.
Impératives. Ces dates, que ce soit la présence dans les audiences, les délibérés au sein du tribunal ou la remise des jugements, toutes ces dates, en fait, sont communiquées. Soit à l'intérieur du tribunal, soit même auprès de la cour d'appel pour ce qui est des dates de plaidoirie et de prononcé de jugement. Donc, on peut effectivement planifier, mais la tenue, en fait, le respect des dates est impératif.
C'est ça, oui. Oui. C'est d'où cette structure de donner les dates un an avant. Parce que je me posais la question pour vous, Corinne et Catherine, qui êtes chef d'entreprise, comment arriver à planifier, mais le sachant un an à l'avance, ça rend les choses plus faciles probablement, Corinne.
Alors, aux procédures collectives, c'est un peu différent. Nous, on doit avoir les audiences des procédures collectives le vendredi matin. On doit en avoir une quinzaine dans l'année.
Oui.
Donc là, ça occupe vraiment toute la matinée. Et ensuite, il faut être assez disponible parce que le juge commissaire, il est amené à se rendre au tribunal régulièrement pour signer les ordonnances. Donc ça, c'est important. Notamment signer les relevés des salaires qui sont envoyés aux AGS, parce que c'est quand même important quand la procédure est ouverte. Les salariés, il faut qu'ils soient payés. Et ensuite, il y a toutes les ordonnances qui sont signées tout au long de la procédure. Donc, il faut se rendre disponible pour se rendre au tribunal. On a les audiences de contestation de créances. On en a une par mois, à peu près, en moyenne. Donc ça occupe une demi-journée. Et puis ensuite, il faut organiser ce qu'on appelle les rendez-vous juge-commissaire, où on rencontre le débiteur, l'administrateur, le mandataire. Donc ça aussi, ça prend un petit peu de temps. Donc c'est toute une organisation, mais écoutez-moi, personnellement, j'aime bien organiser mon passage au tribunal le matin, parce que c'est sur ma route, donc c'est facile, ou le soir en rentrant.
C'est ça. Et puis dans ce cas-là, c'est le tribunal qui prime sur votre activité de chef d'entreprise. Quand vous avez des dates, c'est impératif,
c'est
noté dans votre agenda, incontournable.
Oui.
Merci Corinne. Et vous, Catherine, alors? Pareil.
Oui, c'est ça. En fait, alors nous, comme le disait Géraud, on a des dates bien programmées, donc c'est plus facile de s'organiser. Après, c'est une organisation qui est personnelle. Moi, je vais rédiger le soir, par exemple, parce que c'est le moment où c'est plus calme, ou le week-end, j'ai plus d'enfants en bas âge, et ça dépend un petit peu de chaque personne. C'est vrai que si vous avez une activité qui vous oblige à voyager beaucoup, ça peut être plus compliqué que si on est plus sédentaire, mais Ben, je pense que quand on est vraiment motivé, oui, on arrive
on
à s'organiser.
Ce qu'on aime.
Voilà, c'est ça. Oui. Donc, avec des dates programmées, je pense que déjà, ça c'est nous, c'est vraiment il y a une récurrence. Comme le disait Géraud, on donne les plannings à la fin de l'année pour l'année suivante. Donc, c'est ça a jamais été vraiment un problème pour moi de trouver l'organisation qui convient.
Merci Catherine de nous avoir partagé votre parcours et puis peut-être d'avoir suscité des vocations parmi les auditeurs et auditrices. Moi je voudrais revenir aussi donc sur, puisque vous êtes là ce matin pour parce que vous êtes à la recherche de nouveaux juges, en fait vous voudriez en recruter combien, Géraud?
10,
d'accord.
Voilà, peut-être plus, peut-être moins, puisque ça dépend en fait du nombre de départs non prévus en fait que nous aurons. Alors, ceux qui sont prévus, ce sont ceux qui sont atteints par la limite d'âge ou qui ont effectué le nombre maximum de mandats. Mais il y a dans la vie des juges des changements. Certains déménagent, d'autres ont des problèmes de santé. Donc on ne sait jamais, à une ou deux personnes près, il y a toujours en fait des variations en matière de nombre. Voilà. Et ce que nous souhaitons aussi, c'est de pouvoir effectivement sélectionner les juges, c'est-à-dire choisir ceux qui nous paraissent être les plus aptes,
le meilleur profil,
pour tenir cette fonction, parce que cette fonction, eh bien, elle est passionnante, elle est exigeante.
Elle ne s'adresse quand même pas à n'importe qui, faut le dire. Tout le monde peut candidater.
Tout le monde peut candidater, mais il y a des personnes qui vont avoir plus de facilité. Et l'objectif, quand même, comme d'ailleurs tout employeur, sauf que ce n'est pas un emploi dans ce cadre-là, mais.
Oui, je rappelle que je crois qu'on l'a pas dit depuis le début de l'émission. Vous êtes bénévole,
c'est ça.
C'est très important.
C'est ce que je voulais rajouter. Voilà. Bénévole ne signifie pas facultatif. On s'engage sur une mission. On commence toujours nos jugements par au nom du peuple français. Et ça, d'accord, je trouve que c'est important. C'est ce que je rappelle toujours aux juges en formation, parce qu'on a pris cet engagement-là.
C'est ça. Voilà. Oui. C'est ce que je disais. Vous êtes dans l'engagement.
Oui.
Géraud, vous n'avez
oui, pas terminé. J'ai perdu le fil, heureusement.
Désolé, ça va vous revenir. Alors, qui peut concrètement candidater aujourd'hui? Je m'adresse à vous trois.
Alors, je pense que toute personne de plus de 30 ans, je pense qu'il faut avoir une expérience professionnelle qui soit quand même significative. Je pense que si vous avez juste 30 ans, vous n'êtes pas quand même le mieux placé pour juger finalement d'affaires qui rapidement vont devenir des affaires complexes. Donc il faut une certaine expérience professionnelle, et cette expérience professionnelle, elle va être d'autant plus significative qu'on l'a exercée à un certain niveau. Le niveau idéal, c'est le niveau de Corinne et de Catherine, c'est-à-dire c'est le niveau de chef d'entreprise. Pourquoi ? Et peu importe la taille de l'entreprise. Tout simplement parce qu'on aura eu à faire face à l'ensemble de la problématique d'une entreprise, que ce soit ses problèmes de trésorerie, que ce soit ses problèmes de litige avec ses fournisseurs, ses clients. Voilà. C'est cela, en fait, que l'on cherche. Alors ensuite, il faut que la personne ait quand même, un certain goût pour l'analyse des dossiers, parce que les dossiers, ils ont tendance à grossir, et le diable est dans les détails. Donc, il faut éplucher les pièces.
Oui, il faut pas faire une lecture diagonale.
Voilà,
en diagonale.
On va pas juger en équité. On va pas dire, celui-là, il a vraiment une sale tête. Ou puis son avocat, c'est vraiment pas bon. Non, il faut réellement s'en tenir au dossier, à ce qu'il y a une exigence. Donc, il faut avoir des capacités d'analyse, aimer ça. Et puis, il faut être capable de rédiger.
Oui, de rédaction.
Voilà, de rédiger en français. Ouais. Et non seulement de rédiger en français, mais rédiger en français juridique.
Ah oui.
Ce qui est en fait, on peut dire un jargon ou une langue exactement, qui est très précise, et pour lequel il y a un apprentissage, qui est une des choses que l'on fait la première année, sur comment comment rédiger, comment parle-t-on, quelle est la précision des mots, voilà. Et c'est là où on s'aperçoit que il y a d'abord un vocabulaire qui est assez étendu, qu'il faut apprendre, et d'autre part qu'il n'y a pas de synonyme en français. Donc il faut choisir le mot juste. Et ce goût du mot juste, ce goût de la rédaction, est un élément important pour s'y sentir bien.
Et peut même être jubilatoire.
Exactement. Peut même être jubilatoire. Mais bon, là,
Pardon, Géraud, il me semble quand même que vous avez des matrices, c'est ça? Quand vous rédigez?
Oui, nous, je dirais, l'une des différenciations du tribunal de commerce de Pontoise par rapport aux autres tribunaux de commerce de l'Île-de-France, c'est que c'est probablement le lieu où l'on est le mieux formé.
J'allais vous demander quelle était la spécificité du tribunal de Pontoise.
Alors, la spécificité du tribunal de Pontoise, c'est Catherine Duchesne. Mais de manière plus, non pas en équité, mais en droit, c'est la formation. Le tribunal de Pontoise a fait d'énormes investissements en matière de formation. Et l'une des particularités, c'est précisément de réunir l'ensemble des nouveaux juges chaque année dans une seule et même chambre, donc il y a un effet de promotion, vous voulez,
d'émulation.
Et puis on les fait travailler, donc Catherine les fait travailler sur des affaires réelles, c'est-à-dire c'est ils arrivent au mois de janvier et puis le 9 janvier, pas de chance, ils repartent avec leur premier dossier à analyser. Donc ils travaillent sur des cas réels, et pour ça il y a les trois couches de formation qui ont été citées, le NM, celle qui est dispensée par le greffe, celle qui est dispensée par la présidente de la chambre et son premier juge associé. Et puis, il y a des outils. Et notamment, dans ces outils, il y a ce qu'on appelle des matrices, qui sont en fait des trames de jugement, avec un certain nombre de commentaires pour savoir quand utiliser telle phrasé.
Je voulais revenir sur cette matrice parce que quand vous disiez qu'il faut avoir un langage très précis toujours pour ces futurs candidats, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas lâchés dans la nature comme ça, d'une façon anarchique.
Dans toute profession, il y a un jargon.
Oui, oui.
Et alors, on peut parler de jargon juridique, sauf que c'est un peu plus qu'un jargon, c'est véritablement une langue telle que c'était écrit, je dirais sans doute par des auteurs comme Montesquieu au XVIIIe siècle, c'est-à-dire c'est une langue qui est parfaitement maîtrisée.
Très bien, merci beaucoup. Est-ce que il peut arriver qu'un juge, il fait la formation, il fait son année, et puis il démarre, et puis il se dit, non, c'est pas du tout pour moi. Donc, vous êtes élu, c'est ça. Il y a la possibilité de revenir sur sa décision et de quitter?
Oui. Alors, on le déplore toujours.
Oui, bien sûr. Mais je veux dire, vous n'êtes pas pieds et poings liés.
Non, si
ça ne va pas.
Évidemment, il y a cette possibilité de démissionner.
Oui.
Nous, on le regrette toujours on a cru.
C'est du temps investi.
Mais on peut comprendre. Alors, il peut y avoir parfois des conditions qui changent, des situations qui changent.
Oui, c'est ce que disait Géraud. La
personne ne peut pas rester.
Mais je veux dire, purement techniquement, personne qui dit non, je suis pas capable de rédiger, d'assurer.
Tout dépend quel est le problème. Si c'est si elle pense ne pas être en mesure, on peut recommencer une année ou travailler plus spécifiquement avec la personne sur les difficultés qu'elle a. Si c'est en revanche une incompatibilité avec une activité professionnelle ou une situation personnelle, là effectivement on n'a pas la main là-dessus.
Bien sûr. Merci Catherine. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Alors, je propose une dernière pause. On écoute Blues Trottoir et son titre Un soir de pluie. Et puis, on fera un mot de conclusion avant de nous quitter. À tout de suite.
Un un soir de pluie et de brouillard. Quelques taxis passent sans me voir. Une insomnie qui tourne en cauchemar. Je n'ai qu'une envie, rentrez pas trop tard. De toute façon, je voulais pas sortir. Et ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. Un genre gangster vient m'accoster, joue le mystère pour m'épater. Là sous la pluie, il veut bavarder. Ses petits ennuis me donnent la nausée. De toute façon, moi ce que je veux, c'est dormir. Ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. Un soir de pluie.
IDFM 98 FM.
C'est toujours et c'est la dernière ligne droite de l'économie en direct sur IDFM Radio, une émission dans laquelle je reçois ce matin Corinne Belleville, dirigeante associée, juge consulaire, présidente de la 6e chambre des procédures collectives du tribunal de Pontoise, Géraud Fontanier, juge consulaire, président de la 3e chambre de contentieux du tribunal de commerce de Pontoise, et Catherine Duchesne, chef d'entreprise, juge consulaire et présidente de la 10e chambre du contentieux général du tribunal de Pontoise. Alors voilà, cette émission, comme je l'ai dit, arrive à sa fin, mais j'ai une petite tradition qui veut que je redonne la parole à mes invités pour un mot de conclusion. Donc, on commence avec vous, Corinne.
Oui.
Donc,
un petit mot de conclusion.
Oui, s'il vous plaît.
Je ne sais pas trop quoi dire. Écoutez, si...
Qu'est-ce que vous dirigez, vous diriez aux gens qui nous écoutent pour qu'ils rejoignent le tribunal de commerce?
J'espère que cette émission aura servi à motiver des dirigeants ou des cadres dirigeants à venir nous retrouver à Pontoise. On s'y sent vraiment bien. Enfin, pour moi, c'est vraiment que du bonheur d'être à Pontoise.
On le sent, oui. Que vous êtes...
Il n'y a pas de jugement entre nous. Il n'y a pas de côté élitiste. Vraiment.
Voilà, on s'y sent bien.
On s'y sent bien.
On peut que encourager nos auditeurs et auditrices à candidater.
Tout à fait.
Merci Corinne Belleville. Catherine Duchesne.
Oui, je vais rebondir sur ce que disait Corinne. C'est vrai que on ressent vraiment, moi ça m'a marqué quand je suis arrivée la première fois pour rencontrer Gérard Maury qui à l'époque était président du tribunal de commerce. Je l'avais rencontré lors d'un déjeuner au Mevo Medef et il était en train de recruter, donc il m'avait demandé de venir, enfin de le rencontrer, et en arrivant déjà au sein du tribunal, je me suis sentie bien. Et ça a été confirmé par la suite. Je trouve, comme disait Corinne, il n'y a pas de d'élitisme. Enfin, c'est vraiment cette bienveillance envers les nouveaux juges et les juges les uns envers les autres. Donc, je trouve que c'est agréable de travailler de cette façon. C'est vraiment beaucoup plus stimulant.
Merci Catherine. Géraud, le mot de la fin est pour vous.
Si vous avez envie de découvrir une nouvelle matière, une stimulation intellectuelle à travers le droit, si vous avez envie de rencontrer des gens de tous horizons et de nouer avec eux des relations à la fois de travail et sociale, et si vous êtes prêt à vous engager pour la collectivité et pour la justice, devenez juge consulaire au tribunal de commerce de Pontoise, parce que cela répond à ces attentes. Vous servirez en fait la collectivité et vous vous épanouirez, comme j'espère les trois personnes ici ont essayé de l'exprimer et de faire passer leur passion.
Vous l'avez, en tout cas moi je l'ai ressenti, et donc je pense que les auditeurs y auront été sensibles également. Merci infiniment. Moi j'ajoute, pour appuyer tout ce que vous avez dit, que le tribunal de commerce de Pontoise joue un rôle clé dans la vie économique de notre territoire. Derrière chaque décision, il y a des juges consulaires engagés, issus du monde de l'entreprise, qui consacrent bénévolement du temps au service de la justice économique. Vous êtes dirigeant, cadre expérimenté ou jeune retraité, vous avez le sens de l'intérêt général et l'envie de vous investir. Le tribunal de Pontoise recherche activement de nouveaux juges pour les prochaines années. C'est le moment de candidater. Voilà, l'émission est vraiment terminée. Donc, merci à tous les trois pour la qualité de vos échanges. Merci d'avoir été les invités de l'économie en direct. Et puis, on a pu remarquer, mesurer tout votre investissement et votre enthousiasme dans votre mission à ce tribunal de Pontoise.
Merci Jacqueline.
Merci Nicolas pour la technique. Merci à nos auditrices et auditeurs de nous avoir été fidèles comme à chaque émission. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. L'intégralité des interviews se retrouvera en podcast sur idfm.fr. Vendredi, nous découvrons un autre club qui s'appelle La Pavade et qui est de maintenant partenaire d'IDFM Radio. Donc, à vendredi, belle journée et bonne semaine. Mais surtout, restez connectés pour la suite de nos programmes sur IDFM Radio.
IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio.
On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière tous les mardis à 18h.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, l'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio.
Et voilà, la future mariée.
Elle te va à merveille, on dirait une princesse.
J'ai tout de suite pensé à vous en la voyant.
Ouais, mais ça va pas le faire. Il va pas... Non, mais c'est trop voyant.
Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la robe de tes rêves.
Les violences conjugales, ça commence quand?
Si vous pensez être victime, ne restez pas seul. Contactez le 3919.
Dans les moments importants de votre vie, vous avez besoin d'un repère solide. Que ce soit pour défendre vos droits, protéger votre famille ou accompagner votre entreprise, un avocat du barreau du Val-d'Oise est à vos côtés. Les avocats du Val-d'Oise, ce sont des professionnels formés, indépendants et à l'écoute. Que vous soyez Argenteuil, Cergy, Sarcelles ou Pontoise, il y a toujours un avocat près de vous. Retrouvez les dates et les lieux de consultation gratuite destinés aux particuliers et aux entreprises sur le site du barreau du Val-d'Oise. Barreau du Val-d'Oise, l'expertise juridique à votre service.
Bonjour, c'est Roberto Milesi. Je vous réveille en musique de 6h à 6h30, du lundi au dimanche, pour un cocktail de musique vitaminé sur IDFM Radio.